RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Vous êtes avec les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story et dans les grandes gueules. Aujourd'hui, Laura Varton Martinez, sophrologue, Abel Bouilly qui est éducateur, Mourad Boudjellal, éditeur de bande dessinée. C'est la deuxième heure des GG. On va commencer tout de suite par s'intéresser aux aides de carburant que le gouvernement a détaillées, précisées hier pendant 90 minutes. Est-ce que c'est satisfaisant? Est-ce que vous vous y retrouvez? Oui ou non? 32-16 pour en discuter avec les grandes gueules.
Évidemment pas à la hauteur des difficultés qui sont celles aujourd'hui des Français et même de ceux qui bénéficient des aides, parce que vous voyez bien que les aides qui sont accordées ne sont pas à la hauteur de l'augmentation auxquelles ces secteurs font face. Tout ça, ce sont des affaiblissements d'entreprises. Donc voilà, le gouvernement
vous
n'est pas à la hauteur dans ce qu'il propose pour pouvoir permettre le moindre optimisme.
Voilà, c'est pas à la hauteur, il n'y a pas de quoi être optimiste. Voilà ce que disait Marine Le Pen, invitée ce matin d'RMC, BFM TV, et d'Apolline de Malherbe. Alors, ces aides, on les a en détail. On sait déjà qu'il y a un coût, parce qu'il y a 700 millions qui s'ajoutent aux 400 millions qui avaient déjà été débloqués. Ça nous fait 1 milliard 200 millions au total.
1 milliard, c'est à peu près. 4, ça fait 11.
Oui, oui, c'est ouais. Oui, si tu veux.
Mais alors, non, c'est pas moi qui veux, c'est les mathématiques qui le veulent.
Alors, tout ça, en fait, faut quand même rappeler que on invente des aides, c'est un peu usine à gaz, hein, parce qu'il faut aller les réclamer, les aides, avec des effets de seuil. Donc, il y a des gens qui vont être déçus parce qu'ils vont pas être rentrés dans la catégorie gros rouleurs, parce qu'ils touchent trop, parce qu'il y a forcément des professions qui sont oubliées, comme à chaque fois. Tout ça, donc, une usine à gaz, après 1h30, quand même, hier, la conférence de presse, pour aboutir à ça. Tout ça parce qu'ils ne veulent pas baisser les taxes.
Ben voilà.
Le plus simple serait de baisser la TVA ou de baisser la fameuse assise et ça serait quelques dizaines de centimes d'euros de moins pour tout le monde. Ils ne veulent pas faire ça parce qu'ils estiment que ça coûte trop cher, qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses. Donc, on arrive à cette conf de hier, je ne sais pas si vous avez vu, c'était assez lunaire, avec un balai de ministres à chasser croisés sur l'estrade de ministres, venant chacun expliquer d'une façon assez technique ce qu'il en était. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une prime carburant qui existe déjà, qui va passer de 300 à 600 euros pour les salariés. Alors après, c'est les entreprises qui les versent, donc c'est fiscalisé et il y aura plus de critères, il y avait des critères assez stricts, il y aura plus de critères pour l'attribution de cette prime et puis la reconduction de ce qui avait déjà été mis en place. Un peu plus intéressante ces aides pour les agriculteurs, les marins pêcheurs, etc. Voilà, sachant que Monsieur Le Cornu maintenant c'est plus mensuel, c'est trimestriel, donc ces aides courent jusqu'à la fin de l'été et puis rendez-vous en septembre pour voir ce qu'il en est. Est-ce que c'est suffisant pour vous?
Alors les nouveaux secteurs qui vont être aidés, il y a les aides à domicile notamment, il y a un nouveau
dispositif
et de leasing de voitures électriques aussi, parce que l'idée c'est quand même d'essayer de faire en sorte d'électrifier la
France. On demande par exemple,
France, hein, c'est ça,
il y a une aide
sortir, tu vois, du
les chauffeurs de taxi qui sont nombreux à nous écouter, je sais pas si ça va leur intéresser, mais l'idée c'est de leur donner une aide pour les aider à passer à l'électrique.
Abel.
On continue de nous prendre pour des imbéciles, je suis désolé, moi je vais faire un copier-coller de ce que je dis à chaque fois qu'on aborde ce sujet. Il y a deux écoles d'économistes, en fait, par rapport à une gestion de crise. T'as celle qui dit qu'il faut continuer de maintenir les taxes parce que dès qu'on baisse les taxes, ça va faire perdre de l'argent à l'État. C'est celle qui écoute D'Artagnan Le Cornu et Louis XIV Macron. Moi, je fais partie de l'école des économistes qui disent qu'il faut baisser les taxes et partir sur un pari gagnant-gagnant avec les Français. Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas faire confiance aux Français? En fait, c'est là, philosophiquement, le problème. Ils ne nous font pas confiance pour consommer. Moi, je le répète, si demain mon essence coûte 1,60€ ou 1,70€, aujourd'hui, je le paye 2,30€. La différence, je vais l'injecter dans l'économie française. On le répète tout le temps. Les chefs d'entreprise le répètent tout le temps. Vous l'avez répété tout le temps. Donc là, ils disent rendez-vous dans 3 mois. Mais dans 3 mois, ils vont dire quoi? Rendez-vous début 2027. Début 2027, bah oui, ben voilà, campagne présidentielle et on va se faire enfumer encore. Et ils arrivent dans leur balai, chacun fait sa pédagogie. En fait, on comprend rien. On est toujours des Français bêtes. Et sachant que l'enveloppe de 1,1 milliard et quelques. C'est terrible parce qu'il y a une enveloppe auquel tous les Français ne vont même pas forcément aller réclamer parce que c'est trop compliqué, il y a des sites qui sont pas ouverts et tout. Donc on est dans une confusion monumentale. Et ce côté de dire que je ne veux pas faire confiance aux Français, oui, quand je vais baisser les taxes, il va y avoir un inconnu parce qu'il faut que les Français consomment. Mais on veut consommer, on veut kiffer la vie, on veut pouvoir aller au restaurant.
Mais il a mille fois raison.
Mais le Français lambda, il veut quoi? Il veut son logement, il veut quoi? Il veut, une fois qu'il a payé toutes ses charges, il veut aller au resto, il veut aller au cinéma. Regardez toutes les personnes qui appellent. Je peux plus aller au cinéma, je peux plus aller au restaurant, je peux plus me payer de vacances. Mais nous, on veut consommer, on veut injecter, on veut être nous-mêmes les acteurs de l'économie française. Mais eux, ils veulent pas. Après, ils nous disent « Oh, arrêtez de nous considérer comme un État nounou », mais ils ont un intérêt à nous maintenir comme ça. Parce que comme ça, on se retrouve comment ? Mais oui, et faites des enfants en plus. On est en train de nous maintenir pour qu'on soit en mode, on pourra plus réfléchir puisque je suis concentré pour survivre jusqu'à la fin du mois.
Mais concrètement, toi, par exemple, Laura qui roule pas mal, parce que t'es en région parisienne, est-ce que tu as regardé ces aides? Est-ce qu'à un moment donné, t'es concerné?
Non, moi, j'y ai pas le droit. J'ai pas mal de choses à dire sur ce sujet parce que là, ça commence littéralement à me gonfler. De toujours répéter la même chose, qu'il n'y ait strictement rien qui bouge. Je veux dire, il y a des gens, ce sont des pontes d'économie et c'est pas des grandes gueules, ce sont des pontes qui disent exactement la même chose que 80% des citoyens français et que personne n'écoute. Enfin, en tout cas, au gouvernement. Maintenant, là, en l'état actuel des choses, qu'est-ce qui se passe? Les entreprises ne vont pas avoir d'aide. D'accord? Donc, ça va être que sur des rouleurs individuels, on leur dit je vais vous donner 100 balles. Pardonnez-moi, il me semble qu'il y a 60%.
Non, les entreprises, pardon, le BTP, c'est 20 centimes par litre pour les entreprises de moins de 50 salariés.
L'aide aux gros rouleurs.
L'aide aux gros rouleurs.
Oui, mais 100 balles. Les entreprises n'auront pas d'aide, il y en a.
Attends. Donc, on va donner 100 balles à quelqu'un. Pardonnez-moi, mais il me semble que l'essence en France est taxée à hauteur de 60%. Donc, en fait, on donne 40 balles aux gens. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, qui est-ce qui, au final, va devoir encore raquer? Qui est-ce qui va encore devoir se sacrifier pour pouvoir continuer de travailler et de faire tenir le pays? Les entreprises. Pourquoi? Qui va donner la prime? Quand ton salarié va se dire, je me mets en arrêt maladie. Donc déjà, la sécurité sociale, encore, on va creuser le déficit parce que les gens n'auront plus les moyens d'aller bosser. Donc, ils vont se mettre en arrêt maladie. Donc, au final, le patron, il va s'asseoir sur un salarié. Il va finir par lui donner une prime de 600 balles pour qu'il puisse venir bosser. Donc, encore une fois, c'est les entreprises, c'est les petites TPE-PME qui vont se retrouver à feu et à sang pour pouvoir aider ce pays. Et alors, moi, je me pose une question. Quand on me dit, oui, non, mais attendez, on n'a pas l'argent. Comment ça, on n'a pas l'argent? Il y a deux semaines, on a donné 170 millions d'euros au Kenya et en tout, on a prévu de donner 23 milliards à l'Afrique, dont 17 milliards qui sortent
l'Ukraine.
J'arrive.
C'est un prêt, l'Ukraine.
Et qui donne.
Ouais, qui sera jamais remboursé, mais c'est un prêt.
Et qui sortent directement des poches de l'État. Il est dit aussi que oui, là aussi, pour l'Afrique, c'est un prêt. Mais pardonnez-moi, vu que nous n'avons pas d'argent et que nous allons prêter de l'argent, nous allons devoir emprunter plus d'argent. Et qui est-ce qui va encore, une fois encore, rembourser les intérêts de cette dette? C'est nous, les Français. Et alors, le plus risible, c'est quand on voit pourquoi on a donné de l'argent. On a donné de l'argent à l'Afrique pour la transition écologique. Bah, qu'on arrête peut-être déjà d'exploiter les gamins d'Afrique pour aller chercher le cobalt. Ensuite, on a demandé aux gamins, on demande pour la santé. Il me semble qu'en France, les gens viennent se soigner en France et qu'on n'est même pas capable de leur donner des soins décents. Donc, il est strictement maintenant urgent que les politiques arrêtent de mentir et de se couvrir avec des pseudo-aides d'État pour pour que les gens se sentent bien. Ce ne sont que des arrangements gouvernementaux entre les grands de ce monde. Et qui sont les lésés? C'est les enfants au Kenya, c'est les enfants au Sénégal. Pardon, mais personne n'a donné de l'argent pour les homosexuels qui se font lapider au Sénégal.
Oula,
personne n'a donné.
Mais non. Tu pars large. D'accord. Tu dis il y a de l'aide au développement à récupérer.
Oui, c'est ça. Mais tu l'avais donné ailleurs, donc
reprendre ici. Alors, Mourad Boudjelal.
Alors, première chose, quand tu passes une heure et demie à expliquer ta réforme, c'est qu'elle est pas bonne. Si elle est bonne, t'as besoin de 3 minutes et c'est réglé. Enfin, une heure et demie, c'est-à-dire que.
Oui. D'ailleurs, si tu prends toutes les annonces, ça mettait 10 minutes à les annoncer.
Voilà. Donc, une heure et demie, c'est déjà ce qui s'appelle.
Il y a une mise en scène, tu vois, pour nous enfumer.
Puis combien ça a coûté de faire tout ça? Combien ça va coûter maintenant tous les secrétaires qui vont
Je suis
d'accord en partie avec ce qui a été dit.
Je te parle de l'administration pour regarder les chèques, qui va le droit, qui a pas le droit, etc. Il faut aussi leur donner du boulot à tous ces gens-là qui servent plus à rien.
En matière économique, ce que fait l'État, ça s'appelle de la cavalerie. C'est juste de la cavalerie. Mais bon, comme vous l'avez dit, L'État a besoin d'être nounou. Parce que ça permettra à M. Lecornu, dans quelques mois, de dire, attendez, moi, quand j'étais ministre, j'ai aidé tous les Français, je vous ai fait un chèque, rappelez-vous. Hein. C'est mieux. C'est mieux comme ça que, c'est un peu comme c'est comme les aides qu'on donne aux entreprises. Quelque part, c'est juste fait pour compenser l'exorbité des charges sociales. On pourrait aussi baisser les charges sociales et retirer les aides. Mais on a toujours ce besoin d'avoir un État qui a l'impression d'exister et de faire, parce qu'il nous aide. Il nous aide avec notre argent, au passage. Alors, je vais expliquer aux énarques et à nos chers ministres qu'on fait Sciences Po et tout ce qui va se passer, parce que eux, comme ils voient la France sur PS5, ils la voient pas dans le monde réel, ils savent pas, ils ont jamais eu un client, ils ont jamais eu un fournisseur, ils ont jamais fait un chèque à l'URSSAF, ils connaissent
Serge
pas
Papin,
le monde réel.
Oui, il a dirigé les Super U, Serge Papin.
Ouais.
Bon, connaît. Il sait ce que c'est la distribution.
La distribution, avoir des salariés, tout ça, voilà. Il sait ce que c'est.
Il a fait un chèque perso. Non.
Et Roland Lescure, il vient du privé.
Oui.
Après, je que c'est un premier, c'est autre chose, mais il vient du privé, Roland Lescure.
Moi, je parle de gens qui parlent de leur argent. Voilà, parce qu'avec l'argent des autres, c'est facile. Tout est facile. Tout est simple.
Ils sont l'État.
Quand tu tires à balles réelles avec ton argent, c'est pas pareil que quand tu tires avec l'argent des autres. Ça n'a rien à voir. Alors, je vais leur expliquer ce qui va se passer. C'est assez simple. La première logique, c'est que dans un monde où tout ce qui est les transports augmentent, tout ce qui est transporté augmente avec. Ça, c'est la logique basique. Est-ce qu'ils pensent que les Français vont reprendre leur niveau de consommation d'essence? Pas du tout. Ils vont même le baisser. Parce que cette manne qui leur arrive, c'est un peu d'argent, ils vont le récupérer en se disant, mais ça c'est cadeau, on va le prendre en plus de nos revenus, on va continuer à baisser de consommer de l'essence, on va toujours baisser, on va baisser, on va baisser, et on va prendre ça en plus. C'est un plus. C'est tout. Donc ça ne changera rien du tout au problème que la baisse de la consommation d'essence va poser dans ce problème, parce que la consommation d'essence, c'est le vecteur de l'économie. Quand les gens ne se déplacent plus, ils ne consomment plus. C'est clair. Ou alors, s'ils se déplacent plus, quand ils consomment, c'est l'objet qui se déplace. Et c'est plus cher, dans ce cas-là. Donc, s'ils n'arrivent pas à comprendre, comme tu l'as dit, je suis totalement d'accord, qu'aujourd'hui, il faut drastiquement baisser le coût de l'essence et le récupérer sur la consommation et la confiance que ça va générer. Et accessoirement, les Français auront plus confiance dans un gouvernement qui baisse drastiquement les taxes sur l'essence parce qu'il va les écouter qu'un gouvernement qui fait la nounou. Voilà, moi, je vous le dis. Avec ces gens-là, je vous le dis, écoutez bien ce que je vous dis, avec ces gens-là, la France est foutue complètement. Foutue complètement. On n'a jamais eu une classe politique d'un niveau aussi bas économiquement. On est dans la merde, dites-le-vous bien, on est dans la merde avec ces gens-là. On n'en sortira pas. L'avenir de la France est sombre quand je vois comment l'absence de confiance qu'ils ont, comme tu l'as dit, dans les Français, ça fait peur, ça fait vraiment peur.
On a Nicolas qui est avec nous au 32-16. Bonjour Nicolas.
Bonjour les GG.
Infirmier libéral, Nicolas, fidèle des grandes gueules. Vous vous y retrouvez dans les aides, là, ou pas?
Comment dire? Une heure et demie de conférence pour rien, pour accoucher d'une souris, quoi. Voilà. Un teasing sur plusieurs jours pour, au final, aider toujours les mêmes personnes. Et j'ai l'impression qu'on aide surtout ceux qui ont un gros pouvoir de blocage dans le pays.
C'est ça. C'est-à-dire les agriculteurs, le BTP, les transporteurs,
voilà,
c'est ça?
Moi, on n'a pas peur de moi. Parce qu'ils savent très bien que moi, c'est les gendarmes qui vont venir me chercher. Donc, il y en a vraiment marre. Je suis complètement d'accord avec Abel, 100%. On nous prend, mais vraiment pour des cons. Hein.
Alors, mais des fois, on leur donne raison. Surtout que les aides à domicile sont revalorisées, mais pas vont bénéficier de la revalorisation de 20 centimes par litre de l'indemnité kilométrique, c'est ce que je vois. Mais pas vous, les infirmiers libéraux, alors.
Ah bah non.
Non, on est des Nantis.
Non.
Nous, on est des Nantis.
Ah bah oui, à 7 euros la piqûre, vous gavez.
Mais 7 euros la piqûre, 5 euros la prise de sang, il faut aller chercher les tubes, il faut les ramener.
Ah bah vous gavez, voilà. C'est une honte.
Voilà. Mais vous roulez combien par jour, Nicolas? Vous faites combien?
Je suis entre 100 et 120 km par jour.
Donc vous êtes un gros rouleur. En
et là, je vais habiter un peu plus loin, je serai 150, 160.
Et vous avez déjà adapté vos soins ou votre patientèle par rapport au prix d'essence?
Non, pas du tout. Pas du tout, il y a des gens qui ont besoin, donc dans tous les cas, on y va.
Ça vous impacte comment, alors, du coup, le coût de l'essence, là, aujourd'hui? Vous avez calculé?
J'ai calculé, j'ai une fourchette à peu près 100 euros de plus par mois.
C'est ça.
C'est à peu près ça.
Vous allez faire comme tous les Français, vous savez, on va tuer le marché de l'automobile européen, on va tous acheter chinois, c'est deux fois moins cher et ça roule électrique.
Au
moins c'est réglé.
Allez-y.
300 balles, vous avez une bagnole.
Je voulais en anticiper, prendre une électrique. Impossible. J'ai un contrat, je dois aller au bout de mon contrat. Impossible de changer. Est-ce que je vais avoir des aides de l'État? Rien du tout non plus.
Ah oui. Donc, oui, parce que hier je sais pas si vous avez entendu, mais Sébastien Lecornu a dit il faut que l'électrique ça profite aux plus modestes, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il faut quand même avoir les moyens.
Les plus modestes, ils ont pas les moyens d'acheter l'électrique.
Si chinois, ça coûte que dalle maintenant.
300 balles par mois, c'est pas que dalle, moi.
Vous savez combien
Tu vois la bagnole que tu as, 300 balles.
Allez, oui, c'est on a combien là aujourd'hui, Nicolas?
C'est 300, entre 300 et 500 balles.
En essence, je suis à 450, plus de 450 euros par mois, juste de leasing. Mais vous imaginez même pas le prix que ça coûte d'avoir une électrique. Alors moi, je peux le passer en charge, donc c'est aussi un avantage.
Oui.
Mais il faut aussi acheter une borne, il faut se faire installer ça chez soi. Les plus modestes, ils peuvent pas payer ça.
Surtout que la plupart du temps, les plus modestes, ils sont. La plupart du temps, les plus modestes, pardon, mais ils ont.
En appartement.
Voilà, la plupart du temps, parce que là, Mourad, pardon, mais moi, tu as dit un truc qui m'a fait sauter au plafond quand tu dis oui, mais bon, maintenant, à 300 balles par mois, t'as une super caisse. Voilà, enfin, sauf que les plus modestes, en fait, ils achètent des voitures d'occasion qui vont acheter 15 000 balles et ça va leur coûter 50 euros par mois. Et la plupart du temps, les gens les plus modestes, ils habitent quand même en immeuble, en HLM et ils n'ont pas les moyens d'avoir.
À 25 avec une chinoise.
De quoi?
Au lieu de 50. Ça sera la moitié prix avec une chinoise.
Mais Nicolas, reste avec nous.
Ça change pas le problème, comment?
Voilà. Cyril, qui est du côté de l'Ille-et-Vilaine et qui est agriculteur. Bonjour Cyril.
Apiculteur,
c'est vrai, pardon, vous avez raison.
Il a déjà la tête au Stade de France.
Vous allez récupérer sur le GNR, sur le gasoil non routier, vous?
Ah non, pas du tout.
Non. Alors.
Pas du tout. Déjà parce que comme 80% des apiculteurs, je suis un amateur, n'est-ce pas? 80% des apiculteurs en France sont des amateurs, d'une part. Ensuite, parce que maintenant, je me déplace à vélo. Et uniquement à vélo, y compris pour mes ruches.
D'accord.
C'est-à-dire que pour mes déplacements normaux, pour aller au travail, pour faire du contrôle, hein, j'ai acheté un vélo fabriqué en France, dans le 44. Qui est en carbone, qui est léger, qui coûte plusieurs milliers d'euros, et je vais à vélo pour déplacer une ruche. J'ai acheté un biporteur électrique avec une grande benne devant, n'est-ce pas, qui coûte plus de 5000 euros, c'est le prix d'une bagnole.
Des investissements quand même.
Et, oui.
Alors il y a des aides effectivement, mais comme disait l'intervenant auparavant, quand on a des aides quand on est pauvre. Mais investir 5000 euros dans un vélo pour avoir des aides après, c'est pas possible, donc c'est un non-sens. On ferait mieux de donner une aide à l'acquisition plutôt qu'un remboursement.
Bien sûr.
Sinon, c'est l'hypocrisie, ok. Mais moi, j'ai changé mes habitudes. J'aurais bien acheté une voiture électrique, d'accord. Mais la seule voiture électrique qui est cohérente dans mon activité, c'est un pick-up. Il est fabriqué aux USA, d'accord. Il est interdit en France. Pour des questions de poids et d'homologation. C'est-à-dire que comme il est au-dessus de 3 tonnes 5, c'est un poids.
Oui, c'est un beau pick-up. C'est un tank, 3 tonnes 5.
On ne pas le jeu avec les États-Unis. Et nous, on ne fabrique pas ce type de véhicule.
Non, c'est vrai.
Il faut le permis poids lourd. Alors, je l'ai, effectivement,
mais il n'est
pas homologué en France. Et on change nos habitudes. C'est-à-dire que moi qui habite Saint-Malo, par exemple, ça fait des années que je ne vais plus à la pointe du Groin, même si c'est joli. Mis à part pour le départ de la route du Rhum.
Donc c'est ça, vous avez complètement vous transformé aujourd'hui. Bon ben Cyril, à défaut d'acheter son pick-up, il a pris un vélo de 3 tonnes 5, il a pris un vélo électrique. Petit clin d'œil, mais enfin ce qu'on sent du côté de Cyril ou de Nicolas, c'est que comme on dit déjà, le compte n'y est pas, si tu veux. Oui. On va regarder justement quel est votre sentiment global. Est-ce que les nouvelles aides sont suffisantes, satisfaisantes, oui ou non? Est-ce que ça rejoint ce que nous disait Cyril à l'instant? Non, pas du tout, à plus de 80%.
C'est là le problème, Alain, en une seconde. C'est qu'aujourd'hui, le gouvernement qui est en place ne respecte pas la volonté des Français. Ne respecte pas la volonté. Mm-hmm. Et ça, c'est grave. Parce qu'ils ne sont pas là pour appliquer ce qu'eux pensent, ils sont là pour appliquer ce que les Français veulent.
Mais leur but, c'est de tiers mondialiser la mentalité des Français. Voilà l'objectif.
Je pensais être complotiste au départ en pensant ça. Mais finalement, je me dis que
Tu n'es pas seul. Voilà.
Dans un instant, l'affaire Bruel, le témoignage de Flavie Flamand qui est remise en cause, est-ce que c'est scandaleux ou est-ce qu'effectivement on doit croire tous les témoignages? 32-16 pour en parler avec les grandes gueules, il est 10h20.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les GG, les
Grande Gueule sur RMC et RMC Story des Grandes Gueules avec Laura Barton-Martinez, avec Mourad Boudjellal, avec Abel Boyi des Grandes Gueules qui, tous les jours avec vous, discutent, débattent de ce qui fait l'actualité, de ce qui fait notre société. On va continuer d'évoquer l'affaire Bruel.
Regarde un peu, tu verras tout ce qu'on peut faire si on est deux.
Flavie Flamand est revenue sur son témoignage contre Patrick Bruel et elle a tenu à répondre au chanteur et à son avocat en disant qu'elle n'avait jamais eu de relation sexuelle consentie et elle dit que c'est de la diffamation, une diffamation épouvantable.
Oui, et d'ailleurs elle dit qu'elle réfléchit avec ses avocates. Peut-être porter plainte pour diffamation contre le chanteur et son avocat, parce qu'effectivement son avocat avait laissé entendre que il y avait une relation consentie et surtout une relation suivie. Ils étaient devenus des sex friends.
Elle a 16 ans.
On parle même de vacances, etc. Elle dit non. Patrick Bruel, je ne l'ai vu que deux fois à titre privé et la deuxième fois c'était dans son appartement parisien. Ensuite, elle l'a revu mais sur des plateaux télé. Elle dit que la relation n'était pas consentie. Elle rappelle à nos confrères d'RTL que pour elle, a priori, elle était soumise chimiquement. En tout cas, elle a bu un thé. Elle s'est retrouvée ensuite dans un état second sur un lit et elle se souvient qu'il était en train de reboutonner son pantalon. Et ensuite, le chanteur l'a raccompagnée à la gare pour qu'elle rentre chez elle. Effectivement, il avait 31 ou 32 ans et elle 16 ans. Et Flavie Flamand dit, il savait très bien que j'étais mineur. Mais ce qui m'a interpellé aussi dans ce témoignage ce matin, qui était assez fort et elle est assez précise d'ailleurs dans ce qu'elle raconte, même si ça remonte à une trentaine d'années, elle dit quand même que en fait Patrick Bruel a appelé chez elle, c'est sa mère qui a décroché, très contente que Patrick Bruel, qui était déjà une star, s'intéresse à sa fille, et sa fille donc sa mère la laisse partir dans l'appartement parisien de Patrick Bruel. Je me dis quand même, il faut que les parents protègent leurs enfants, justement si elle est mineure, c'est encore une adolescente et donc elle est sous la protection de ses parents, et là quand même il y a quelque chose qui moi m'a interpellé dans son témoignage. Mais en tout cas, quand on écoute Flavie Flamand, c'est très précis. Et effectivement, depuis 2-3 jours, on voit que la défense de Patrick Bruel, c'est de remettre en cause ce témoignage. Est-ce que c'est pas une erreur?
Alors déjà, première chose, pardon, mais il a avoué du coup qu'il avait violé Flavie Flamand, puisqu'il a dit c'était une relation consentie. Cette gamine avait 16 ans.
Il a avoué qu'il avait une relation.
Ça, c'est pas un viol.
Non, si c'est consenti, c'est pas un viol.
Une gamine de 16 ans qui couche avec un mec de 32, c'est pas un viol?
Non.
D'accord.
Bah, non, si lui dit que c'est une relation consentie, il n'y a pas de...
D'accord, très bien.
Après, ensuite, ça peut choquer du point de vue de la morale et de l'écartage, mais...
Ensuite, je voudrais parler de deux choses. Petit un, je voudrais m'adresser à toutes les personnalités publiques qui, là, nous disent avec, sans aucune honte, mais on savait. C'était une notoriété publique. Là, moi, depuis que l'affaire sort, je rencontre des gens dans les médias, je rencontre des gens dans les couloirs, et on discute, et donc moi, je m'offusque, et on me dit, mais tout le monde savait.
Mais tout le monde savait quoi?
Bah, tout le monde savait que c'était un queutard, tout le monde savait que...
Ça, c'est pas un délit.
Tout le monde savait qu'il avait des tendances à vouloir avoir une domination certaine sur les femmes.
Ça, c'est pas, pour moi, c'est pas un délit non plus, tant que c'est pas prouvé.
Oui, mais elle a raison de dire qu'on a beaucoup de on savait.
Voilà.
Et d'autres. Donc, tous ces gens qui savaient, qu'ont-ils fait?
D'accord, mais.
Quand tu sais.
Savoir, non, mais elle dit savoir que c'est un queutard et un dragueur lourd.
Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai pas dit dragueur lourd.
Lio, elle dit pas. Elle dit qu'il était malade, il doit se faire soigner.
Oui, mais alors que tu sois malade parce que t'es priable ou obsédé sexuel, pour le moment, c'est. Encore une fois, elle dit il a carangé sa quéquette pour monter sa braguette. Excuse-moi, c'est toujours pas un délit.
Bah, ça peut
c'est
être
une réputation.
Bah, ça
d'accord.
peut être du harcèlement sexuel.
Oui,
en général,
quand tu dis,
quand t'as ce genre de réputation.
Mais quand les gens disent, on savait, si oui, mais... tu sais, tu parles, ou tu te tais, mais tu peux pas dire 20 ans après, on savait.
Tu parles pour dire quoi? Pour dire, ouais, monte pas dans l'ascenseur avec lui, il va te mettre la main au cul. D'accord. C'est déplacé, c'est vulgaire,
non, c'est lourdingue,
mais c'est pas
dans l'affaire des SK, dans l'affaire des SK,
c'est de la diffamation. Non, c'est répréhensible par la loi de mettre la main au cul.
Dans l'affaire des SK, tu sais très bien qu'il y a des responsables socialistes qui déconseillaient au
fait
à l'ascenseur avec des SK.
Évidemment.
Donc quand tu sais ça, c'est-à-dire que tu sais. Mais ce type-là peut être effectivement un porteur.
Je dis que je fais la part des choses entre après les accusations de viol. Nafissa Tudiallo, c'est un viol.
Oui, sauf qu'ils peuvent pas, ils peuvent pas le dire.
Non, mais c'est de la complicité. C'est pas ça. C'est ce qu'on veut dire. Mais non, c'est de la complicité. C'est
complètement.
Enfin, je suis désolé. Moi, si j'avais un collègue ici à RMC et qu'on me dit, et si je savais que ce type-là, dès qu'il monte dans un ascenseur, il va tripoter la fille qui est avec lui, ben, je suis désolé. J'irai voir quelqu'un, j'irai voir son supérieur en disant, c'est plus possible. Je n'irai pas.
D'accord. Je dis simplement.
Ah, mais je savais, mais j'ai rien dit parce que tu comprends, c'était pas mon problème.
Je dis simplement là qu'on parle, d'accusation de viol et d'agression sexuelle. C'est tout. Dire de quelqu'un, il est lourd, il drague, et ben il faut pas s'approcher de lui, ça veut pas dire que tu dis que c'est un agresseur sexuel.
Va plus loin.
Si, je suis désolé.
C'est
dit le droit et la réputation.
Et ben alors déjà, un harcèlement sexuel, c'est répréhensible par la loi, ça c'est premièrement. Ensuite, ils vont quand même pas prendre le risque que de dire, oui, je savais que Patrick Bruel était un violeur parce que sinon ils vont se retrouver avec un procès pour diffamation. Deuxième chose. Maintenant, je voudrais répondre aussi à tous les gens qui disent, oui, mais pourquoi on parle que maintenant, etc. Très bien. En France, le nombre de victimes qui portent plainte, c'est à peu près entre 10 et 14%. Ensuite, le nombre de victimes, ça arrive devant un tribunal, c'est maintenant sur ces 14% fourchette haute, c'est 3%. Condamnation, 1%. Et le, dans tout ça, le nombre de victimes qui s'avèrent être de fausses victimes, c'est 2%. Donc non, je suis désolée, là vous avez 30 femmes et il y en a d'autres qui vont sortir. Il y a 30 femmes qui parlent. Il n'y a pas de doute.
Mais même sans parler du doute, il y a trois points que j'aimerais dire très rapidement. Premièrement, l'amnésie traumatique, parce que quand on écoute le témoignage de Flavie Flamand, on respecte la présomption d'innocence, on le dit. Vous pouvez avoir vécu quelque chose de dramatique. Moi, j'ai une amie comme ça qui malheureusement était victime d'inceste jeune. Et elle avait oublié, c'est revenu comme un flash.
Parce que là, ce qui me surprend, c'est que Flavie Flamand, on décrit quand même les choses très précisément, alors que ça s'est passé il y a 31 ans. Les vrais souvenirs. Donc c'est pas, on me dit souvent l'amnésie, là, elle est pas dans l'amnésie, là.
Mais après, elle a aucun intérêt à mentir.
Elle dit qu'on lui aurait servi un thé. Ensuite, il y aurait eu un blackout, non, et au moment où elle se serait réveillée.
Mais elle se souvient très bien de ce qui s'est passé avant, après.
Oui, mais ça fait partie de l'amnésie traumatique. Ça peut être partielle ou totale, en fait. Et le jour où ça va, où ça revient.
Et le jour où ça ressort,
moi, pour mon amie, c'est revenu un soir où elle était en dîner avec sa famille, et puis bam, la scène du viol est revenue comme ça. Elle fait une crise de détresse en plein milieu du restaurant. Deuxièmement, il y a toujours quelque chose qui est terrible. Et je répète, on respecte la présomption d'innocence. Un homme qui dit, elle ment, on dit, ouais, t'as raison, faut qu'elle prouve. 30 femmes qui disent, il ment, on demande aux 30, montrez-nous les preuves. 30 femmes qui ne se connaissent pas, bien entendu. Donc
la
voilà.
La quantité ne fait pas l'accusation, ça.
Mais bien entendu, mais
en termes de droit, ça.
Oui, mais quand c'est l'homme qui va dire, elle ment, on a toujours plus tendance à le croire, alors que les femmes, c'est montrer les preuves. Pourquoi à l'homme, on ne dit pas, prouve que tu es innocent.
Ah bah parce que c'est pas ça le droit.
Ah ben oui.
Ah bah non, le droit,
moi je parle pas dans la question du droit.
N'importe quoi.
Moi je suis pas
et
sur
je dis elle prouve
que
c'est
pas vrai.
Mais moi je suis pas sur la question du droit justement. Moi je suis sur la question de la morale parce que tu as la
morale. Ouais, mais ça c'est problème, c'est chacun sa morale.
Mais c'est bien pour ça que tu as des innocents qui sont condamnés et des coupables qui sont innocents.
Non, 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 parce que la morale c'est pas le droit. Le droit, non, non, je suis pas d'accord avec toi.
Tu as la lettre et tu as l'esprit de la lettre. Je suis désolé, sinon
le droit c'est pas la morale.
Sinon il n'y a plus d'humanité.
Non, non, voilà. Chacun sa morale, et la morale, tu l'imposes pas aux autres, parce que quand tu veux commencer à l'imposer aux autres, en général, c'est que ça se termine mal, c'est des régimes totalitaires. Mais, c'est le droit qui compte.
Ben là,
et donc, il faut effectivement enquêter sur chaque cas. D'ailleurs, chaque cas est différent. Et ensuite, il faut que la justice aille vite, parce que le problème, c'est que là, en France, la justice met trois
ans. En moyenne, 5 à 10 ans pour un viol, hein.
Et ensuite, il faut entendre aussi le contradictoire. Donc, il faut que Patrick Bruel puisse se défendre, parce que c'est le principe, hein. Mediapart, c'est pas un tribunal. Mediapart, c'est un journal. C'est pas à Mediapart que ça va se juger. Ce sont des gens qui sont payés pour, des magistrats, il y a des avocats. C'est ça. Si tu commences à mettre de la morale là-dedans, bien sûr, on est tous choqués. Quand on en coûte Flavie Flamand, on est tous choqués et on se dit, c'est pas possible. Mais c'est pas ça la question.
Mais moi,
la question,
c'est de savoir
ce que le droit va dire.
Mais moi, je suis très attaché à la morale. Et mon dernier point, très rapidement, tu parlais de la maman de Flavie Flamand. Quand il y avait le dossier avec le photographe Hamilton qui s'est suicidé, le témoignage était grave parce que des fois, les parents déposaient l'enfant et le gars, il ouvrait la porte presque tout nu, en fait. Donc oui, effectivement, sur les parents, on peut se poser la question. Mais pour finir, quand on accuse quelqu'un qui est très connu, qui est très puissant médiatiquement, le risque, il est plus pour la victime de tout perdre, en réalité, hein. Parce que vous allez être traité de menteur ou de menteuse par des millions de personnes. Et certaines victimes ne parlent pas parce qu'elles ont peur pour leur carrière professionnelle et leur vie sociale.
Ce qui est pas le cas, là.
On continuera la discussion dans un instant au 32-16. On a Antoine qui est de Bordeaux qui veut intervenir aussi. On a Cécile qui est du côté de la Saône-et-Loire. La parole de Flavie Flamand qui est mise en cause, est-ce que c'est choquant? Est-ce qu'on doit croire, comme le dit, oui, quand il y a une accumulation de témoignages comme ça, on doit croire ces femmes qui prennent la parole, ce que dit Laura Vartan-Martinez.
C'est pas une joie hein, de prendre la parole pour dire
qu'on s'est fait violer. Il est 11h25, vous continuez d'en discuter avec nous au 32-16. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.
Je vous livre quelques réactions qui sont arrivées sur Internet, notamment et sur notre WhatsApp aussi. C'est Yanis qui est vraiment sur la ligne de Laura et qui dit « Moi, j'en ai assez dans toutes ces affaires. » Quand on parle des stars, d'entendre régulièrement des « on savait », voilà comment il était, et ensuite ces chanteurs ou ces chanteuses qui nous disent qu'ils avaient affaire à une personnalité qui était perverse. Eh bien, dans ces cas-là, il y a qu'à le dire publiquement ou le dénoncer publiquement ou porter plainte plus rapidement. On a Michel qui lui s'insurge en disant aujourd'hui, moi je suis désolé, même si je suis choqué par le témoignage de Flavie Flamand et d'autres, il faut laisser la justice simplement passer, qu'il y ait des enquêtes et qu'il y ait des plaintes qui soient déposées. Ensuite, les témoignages recueillis. Laissons la justice travailler tranquillement. Ne tombons pas dans l'hystérie dans cette histoire. Et je ne choisis pas un camp plutôt qu'un autre. Voilà pour les témoignages qui arrivent.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
On va reprendre notre discussion sur l'affaire Bruel avec le témoignage de Flavie Flamand qui ce matin répète, justement c'est ce qu'elle a dit, qu'elle n'a jamais eu de relation sexuelle consentue avec Patrick Bruel et la remettre en cause. Et c'est ce qu'elle dit, on va tomber dans la diffamation, une diffamation épouvantable, c'est comme ça qu'elle le ressent. C'est Antoine qui veut en discuter avec nous. Antoine, bonjour.
Oui, bonjour, vous allez bien?
Oui, ça va, Antoine Grutier, toujours à 30 mètres, 50 mètres, là, au moment où on se parle, 30, ou pas?
Non, 30 mètres, 30 mètres.
Un petit 30
après,
mètres.
Ouais, sinon après, il fait trop chaud, on touffe le soleil et tout, c'est chaud.
Antoine, qu'est-ce que vous en pensez, alors, de cette remise en cause, de la parole, Flavie Flamand ou d'autres? Ouais.
Voilà, moi, j'aimerais dire que Patrick Bruel, jusqu'à preuve du contraire, est innocent. Voilà, ça, faut le dire au début, parce que il n'y a pas de jugement, et les jugements se font dans les tribunaux. Voilà. Le tribunal médiatique, le tribunal, de la société, celui-là, il vaut rien. Voilà, il fait juste monter la sauce, mais il vaut rien pour l'instant. On l'a vu pour Harry Habitant, il a eu un non-lieu. Alors, un non-lieu ne veut pas dire qu'il était non coupable, ça veut juste dire qu'il n'y avait pas assez d'éléments pour l'inculper. Bref. Ce que je veux dire, c'est qu'on remet en cause Flavie Flamand, mais on ne remet pas en cause la parole de Patrick Bruel. Donc, si on remet en cause la parole des femmes, on met aussi alors en doute la parole
de Bruel.
Voilà. Ouais. Bon, la deuxième chose, s'il vous plaît, elle avait 16 ans. Alors oui, maintenant ça choque, mais avant non. Bon, je suis désolé, je suis né dans les années 80, j'ai grandi dans les années 90, j'ai vraiment, enfin moi, ces histoires-là, on n'en entendait pas parler, alors je ne veux pas dire que ça n'existait pas. Je dis juste que, voilà, il avait 32 ans ou 35 ans, elle en avait 16. Bon, faut arrêter là. Faut arrêter. Johnny a dit un truc hyper grave hier. Il a dit
faut arrêter quoi? Ça vous choque? Faut arrêter quoi qu'on comprenne?
Ça choque. Oui, on est d'accord.
Bien sûr que c'est choquant, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai aucune preuve qui dit qu'il est coupable. C'est ça le problème. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que au bout de 30 femmes, 10 plaintes, il y a les bons complots, il y a les mauvais complots. Elles se seraient mises toutes d'accord pour dire que c'est un salaud. Je sais pas, moi, à un moment donné, il faut qu'il ait un peu de décence. Monsieur Patrick Bruel, je crois que sa carrière est au crépuscule. Il a gagné beaucoup d'argent. Bon, il met de côté, il dit ok, j'attends, parce que franchement, ça me va foutre le bordel, sinon, on va pas, voilà, j'attends le tribunal, ça peut prendre 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais là, moi, je pense aux victimes. Voilà. Alors, il sera peut-être une victime, hein, il sera peut-être innocent, monsieur Patrick Bruel. Mais pour l'instant, moi, avec un ça peu de distance, je me mets de côté.
Non, ouais. Et puis il faut rappeler aussi que Madame Flavie Flamand avait écrit un livre il y a une dizaine d'années, justement pour parler du photographe Hamilton, et qu'elle suggérait dans son livre qu'il y avait encore énormément de choses et de monde et de noms. Il faut peut-être ou pas oublier quelque chose, c'est regarder la déferlante que se prend Flavie Flamand, parce que, pardon, mais je pense que la plupart des jeunes générations ne savent pas qui est Flavie Flamand. En revanche, Patrick Bruel, tout le monde sait ce qu'il est.
Non, prends pas de déferlante, j'ai regardé. Les gens l'écoutent, parce que là, c'est...
Non, mais bien sûr, je te parle de la déferlante médiatique. Déferlante, c'est pas forcément quelque chose de négatif.
Déferlante médiatique, c'est surtout quand même, il y a eu des responsables politiques, on demandait à Bruel d'arrêter de chanter. Et d'ailleurs, je me demande de quoi il se mêle, parce que les responsables politiques, ils devraient déjà s'occuper de leur...
C'est qu'il y a quand même là pas mal d'éléments. Et moi, j'ai peur du non-lieu. Parce que malheureusement, dans les affaires de viol, la seule chose que tu peux avoir quand c'est plusieurs années après, c'est la parole des victimes. Et la parole d'une victime, un témoignage, ce n'est pas une preuve.
Il n'y a pas que Flavie Flamand.
Il
y a eu des démentis, parce qu'on dit que dans tous les dossiers, il n'y a aucune preuve. Il semble qu'il y ait des dossiers, notamment un dossier canadien, où il y a des preuves, donc on attend. D'accord. Il n'y a pas que la diffamation.
Antoine, je vous remercie d'avoir été avec nous. À bientôt dans les GG. Mourad, vas-y, bien sûr, avant d'écouter Cécile qui attend au 32-16.
Bah, moi, en préambule, je voudrais d'abord dire que je connais Patrick Bruel, que j'ai fait des soirées avec lui, soirée de bringue, et que donc, quand ce dossier est sorti, bah, j'ai cherché dans mes souvenirs, bien sûr, des moments où peut-être que je me suis dit, il y a des choses peut-être que je n'ai pas vues et tout ça. Je ne vais pas le défendre, mais je ne vais pas l'accabler, que les choses soient claires. J'ai aucun souvenir de choses comme ça. Voilà, devant moi, il ne s'est rien passé. Et pourtant, j'ai vu Patrick Bruel avec quelques grammes. Dans les moments où on est plutôt assez sociable, si vous voulez, c'est ce que je veux dire. Moi, je connais Patrick Bruel comme un mec attentif, un mec fou de sport. Un mec vraiment qui écoute les gens, moi j'ai bossé avec lui, on a fait un bouquet ensemble, ça s'est super bien passé, il a toujours été présent, il a toujours tenu sa parole. Moi c'est cette image que j'ai, et un mec harcelé aussi, c'est-à-dire que vous pouvez pas sortir dans la rue, sortez pas dans la rue avec Patrick Bruel, je vous le conseille pas. Enfin, c'était il y a une vingtaine d'années, un mec qui m'a appelé quelques fois, qui a pas oublié, que j'ai croisé dans le train, on s'est reparlé, on s'est recroisé, voilà. Donc après je vais pas prendre position. Je veux dire, moi, je me dis que si d'un côté il est,
tu vas pas
il est
innocent, si de la
c'est terrible ce qui lui arrive. Et puis en même temps, de l'autre côté, s'il y a de vraies victimes et qu'on les croit pas, c'est aussi terrible. Donc
c'est tout le problème.
Je vais attendre que la justice parle, quoi. Parce que effectivement, on a raison. Il y a la présomption d'innocence.
Mais quand tu as entendu ces histoires,
moi, c'est pas le Bruel que je connais. Hein. Voilà, c'est clair. Je peux vous dire que c'est pas. Mais ça veut pas dire que je connais tout Bruel, quoi. C'est-à-dire, moi, j'ai jamais vu ça. Et pourtant, je peux vous dire que je me souviens de une fois, on a attaqué à. J'étais chez lui, on est allé bouffer dans un endroit qui est, où la bouffe est accessoire, c'était surtout les liquides qui étaient importants. On a attaqué à 13h30, on a dû terminer à 19h ou à 20h. C'est vous dire dans quel état on avait traversé la France, on avait fait toutes les régions de France. Et moi, j'ai fait ça avec d'autres chanteurs. Vous voyez d'autres. À un moment, les mecs, ils parlent que de cul. Voilà, ils parlent que de cul. Lui, quasiment pas. On parlait boulot. Par les passions, par les sports, par les de plein de choses, mais à aucun moment il me disait t'as vu la serveuse, elle est mimi, fatati. Non, je l'ai vécu avec.
Ni avoir des gestes déplacés, ni quoi
non,
que ce soit.
Je l'ai vécu avec d'autres, ça. Je l'ai vécu avec d'autres qui avaient des. À un niveau d'alcool. Ne se tenaient plus. Bruel, c'est pas ce que j'ai vu. Mais ça veut pas dire que c'est pas. Ouais. Moi, la seule chose que le seul témoignage que je peux dire, c'est que malgré des soirées de beuverie, je l'ai jamais vu avoir ce genre d'attitude. Mais je précise, je ne prends pas de position. Parce que je suis pas très objectif, je le reconnais, parce que c'est quelqu'un que j'ai apprécié et que j'attends que la justice parle.
On a Cécile qui est avec nous. Bonjour Cécile.
Bonjour.
Bonjour. Voilà, vous avez écouté tout le monde. Qu'est-ce que vous en dites alors, Cécile?
Moi, j'ai écouté ce matin Flavie Flamand parce que c'est un dossier qui m'a. Et je trouve que, en fait, qu'on remette son témoignage en cause, bon, bah. Chacun son point de vue, chacun son avis. Moi, je pense qu'elle dit la vérité, ou en tout cas que sa vérité est à entendre. Mmh. Et que, de toute façon, Patrick Bruel a reconnu avec elle une relation à 16 ans. Ouais. Donc, une relation à 16 ans, et que la précision qu'apporte Flavie Flamand, c'est qu'en fait, il l'appelle chez elle et que sa mère répond. Moi, je me dis, un type qui a 30 ans, qui passe à ce moment-là, parce que c'est les années où il est passé à 7 sur 7, un mec à qui on demande son point de vue sur le monde, ne se dit pas, j'appelle une mère pour avoir un rendez-vous avec une gamine de 16 ans. Alors, on va me dire, dans les années 80, 90, ça se peut bien passer.
Il y avait Mesnef qui passait apostrophe,
mais oui,
pour expliquer le plaisir de la pédophilie.
Maintenant, ça se condamne et on est tous en train de se dire que ce n'était pas normal. Donc, dans l'idée, Patrick Bruel, il reconnaît déjà ça. Après, moi, je prends la parole en compte de 30 personnes, de personnes qui n'ont rien y gagné.
Oui, mais c'est 30 personnes, pardon.
J'aimerais finir quand même.
Oui, mais je voulais dire un truc là-dessus.
Parce qu'en fait, elles ne demandent pas d'argent, elles n'ont rien à gagner.
Mais oui, c'est elles qui ont tout à perdre. Bah oui.
Elles ne gagnent rien. Et en fait, que Flavie Flamand soit une porte, c'est le portée d'empare de quelque chose pour que ça se libère. Moi, à titre perso, pour vous dire, dans ma petite Saône-et-Loire, j'ai deux anecdotes sur Patrick Bruel qui m'ont fait dire à un moment, ce garçon n'est quand même pas très bien avec, ne se comporte pas très bien avec les jeunes femmes qu'il fréquente. Et voilà, je vais pas dire je savais, non. parce que dans mon métier de chargée de com, j'ai travaillé avec quelques médias ou dans, j'ai approché des événements, j'ai eu écho que le garçon avait quand même parfois auprès des femmes ou des comportements pas.
Ouais, mais il y en a beaucoup. Hein, je peux vous, en, voilà, je vais pas vous les citer, mais on le sait qu'il y en a beaucoup, quoi.
Donc moi, quand d'un coup dans ma petite Saône-et-Loire, il y a encore un an, on me raconte un truc, je me dis bon bah le garçon, il y a ce qu'il raconte et puis ce qu'il est profondément et sans doute il faut mieux connaître l'artiste, séparer l'artiste de l'homme.
Mais Cécile, mais vous avez raison. Mais Cécile, l'argent, l'argent et le pouvoir fait monter les hormones mâles.
Bah, c'est pas bien, Mourad.
Mais je sais, mais c'est une réalité. D'un cité, on donnera pas de nom, mais on en connaît.
Oui, mais moi j'en connais.
Bah, oui, elles en connaissaient, j'en connais aussi, voilà.
Bon, tout le monde en connaît très bien. Mais Cécile, Cécile, d'accord avec tout ce que vous dites. Néanmoins, moi, ce qui me choque dans ces affaires, je suis désolé, c'est le tribunal médiatique. C'est-à-dire que, en fait, moi, ça me choque. Moi, je trouve que ces femmes, si Patrick Bruel, au final, est un violeur, qu'il soit condamné durablement, et moi, je suis pas dans ce cas-là, c'est prison.
Mais il est déjà condamné.
C'est prison, c'est terminé. Mais pardon, le tribunal médiatique, moi, pour ces femmes, si elles ont des choses à lui reprocher, qu'elles aillent voir avec leur avocat. Je termine. Un commissariat de police, qu'elles posent plainte. Mais si jamais elles se rendent compte que ça n'aboutit pas, parce que c'est vrai, parfois ça peut aboutir, ben dans ce cas-là, qu'elles aillent voir les médias, qu'elles fassent du bruit. Moi, ce qui me choque un peu, c'est qu'avant d'aller voir le commissariat.
C'est les médias qui sont allés chercher les victimes.
Non, ça marche pas comme ça. Non. Ce qu'elles vont faire, c'est d'aller voir Mediapart et parler dans Mediapart en premier. Et donc, derrière, en fait, avant même que la justice soit saisie, puisque la justice n'est pas saisie, il n'y a pas de mise en examen, personne n'a été auditionné, eh bien ça y est, c'est donc un média ou deux qui décident d'instruire le procès. Ben moi, je suis désolé, c'est pas ça l'état de droit. Non, mais vous êtes très, tout le monde est là à dire parler l'état de droit, et que ça soit un puissant comme Bruel ou un simple citoyen, c'est la même
Olivier,
chose.
Olivier, est-ce que tu as des règles? Il y a un truc que tu dis, c'est pas juste... Non, pardon, il y a des plaintes depuis 2017, il y a même une enquête qui a été classée sans suite. Pourquoi est-ce que les gens utilisent les médias? Parce que le système est trop lent.
Ça a été réouvert justement, et ça fait partie des dossiers.
Et quand on sera classé sans suite, tu diras quoi?
Toi, tu penses que utiliser les médias, c'est un plaisir pour ces femmes, comme disait Laura, dire médiatiquement je me suis fait violer, c'est pas un plaisir pour elles. C'est pas un plaisir.
Je n'en sais rien. Et je n'ai pas. Ce n'est pas à moi de sonder leur âme, de dire pourquoi elles font ça.
Mais l'écho médiatique est important pour
l'accusation. D'ailleurs, ce sont pas, si on voulait vraiment utiliser les bons termes, ce sont pas des victimes, ce sont les accusatrices. Elles seront victimes lorsque la justice se reconnaîtra. Okay. Mais
pour moi, ce sont des victimes.
Je ne veux pas savoir. Je sais simplement que Harry Habitant, sa carrière est quasiment foutue, et pourtant il n'a jamais été condamné. Et pourtant, son procès médiatique avait été instruit. Donc, alors, soyons prudents.
Moi, je vais te donner un exemple et je vais jeter un pavé dans la mare exprès qui aura l'air hors sujet. Il y a pas longtemps, on a fait un débat sur Palma. Est-ce qu'il a le droit? Est-ce que, en gros, quand on est accusé ou condamné, on a le droit d'avoir sa carrière toujours?
Lui, il a été condamné.
Ok, d'accord. Il a été condamné. Pourquoi il est blacklisté partout? Il y a même des arrêtés préfectoraux. Il est interdit de se produire dans les salles.
Mais c'est parce que ce que les gens craignent, c'est le trouble à l'ordre public.
Ah, et là, il y a pas. Donc tu violes des filles
mais vous l'avez déjà condamné.
Pourquoi il y a des arrêtés municipaux et des arrêtés préfectoraux? C'est le trouble à l'ordre public.
Il a même présenté des excuses publiques. C'est bizarre.
Alors, je veux dire, nous fais pas ce procès parce que je crois qu'on a été la dernière émission de radio à recevoir.
Je suis pas forcément pour l'interdiction.
Non mais
je vois pas pourquoi tu me donnes des exemples. J'ai jamais dit qu'il fallait interdire
les policiers dans un spectacle comme le rappelait que hier soir.
Comme rappelait Alain, on a été sans doute les derniers à le recevoir.
Ce que les municipalités et les préfectures craignent en cas de spectacle, c'est qu'il y ait des affrontements.
Il a été condamné pour incitation à la haine raciale. Il est bloqué.
C'est la différence.
Il y en a d'autres, notamment dans la politique, qui ont été condamnés aussi pour incitation à la haine raciale. Ils ont accès à tous les plateaux télé. Donc moi, si on fait le débat, que ce soit pour Patrick Bruel ou autre, faut qu'on soit équitable avec tout le monde.
Tu parles des gens qui sont condamnés, ils sont condamnés à vie. On est en vie. Pour Patrick Bruel, ok, on respecte la présomption d'innocence, mais qu'on ne crache pas sur 30 femmes. Et il y en a plus qui vont parler encore. Mais personne ne crache sur elle. En tout cas, je le dis en mon nom, mais ce qui a été dit aujourd'hui, je peux vous dire que ça me fait super mal. J'ai l'impression qu'on me piétine. J'ai vraiment l'impression. J'ai l'impression. Je n'ai pas dit que ça avait été fait. Moi, je fais partie de ces gens qui ont eu un blackout partiel. Je me suis rendu compte que non seulement j'avais été violée une fois, mais j'avais été violée. C'était un viol en réunion. Et je me dis qu'on a encore énormément de chemin à faire. Et quand on continue de se battre pour la présomption d'innocence, toujours pour des. Oui, sauf que à chaque fois que ça fait débat et que tout le monde est vent debout pour la présomption d'innocence, c'est uniquement pour les affaires de viol. Il n'y a pas autant de vent debout. Non, je suis désolé. Il n'y a pas de débat aussi énervé.
Dans un instant, en direct sur RMC.
Parce que l'innocence est Dieu donné. Hein.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.